LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guérilla. Épisode 1, filmer le peuple, filmer les siens. Du studio légendaire de Marcel Pagnol au cinéma de contrebande de Paul Carpita, en passant par la success story de Robert Guédiguian, à l'émergence des nouveaux talents tels que Avzia Herzi et Jean-Bernard Marlin, le cinéma marseillais n'a de cesse de questionner les tourments intimes et sociaux du pays de l'OM, Zidane, Ayam et Jules. Aujourd'hui, nous allons près du Vieux-Port à la rencontre de Robert Guédiguian, qui a voulu enraciner un cinéma social dans le village de l'Estaque, avec les siens. Fier héritier des luttes sociales du monde ouvrier des docks, il raconte sa percée difficile contre l'industrie, dès son premier film, Dernier été, jusqu'à la consécration de Marius et Jeannette.
Le cinéma, c'est un sport de riches. Quand on arrive dans ce milieu, la majorité des gens et la majorité des réalisateurs, c'est des gens qui viennent de milieux aisés. D'accord ? Et c'est pas une critique, mais c'est la réalité. Je pense qu'il doit y avoir 5% des réalisateurs qui viennent de milieux, on va dire, plus modestes.
Jean-Bernard Marlin.
Ce qui est pas assez, je trouve que justement, il n'y a pas une mixité sociale très grande. Peut-être qu'on aurait, des récits... différents, on aurait des formes de cinéma peut-être un peu différentes s'il y avait plus de mélange.
La bourgeoisie reste la bourgeoisie.
Robert Guédiguian.
Là, on le voit, là, ce qui se passe en ce moment. La bourgeoisie ne peut pas que se voir qu'il y ait un autre pouvoir que le sien. Je crois que quand même, sans le 168 et sans ce passage à la conscience politique et à la nécessité, à partir de cette conscience politique, justement, de faire des études, d'être considérés tous les mouvements révolutionnaires, en fait, à cette époque-là, considérer qu'il fallait être les meilleurs partout. Donc il y avait une espèce d'éthique comme ça, il fallait être le meilleur, voilà, il fallait être en sport, en études, etc., partout. Quoi, voilà. Au jeu, d'ailleurs, à tout. Voilà. Donc on a, ça a vraiment structuré ma... Aujourd'hui, je pense à ça, hein, je veux dire, maintenant que je suis vieux, je pense à ça de ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans, quoi, puisque j'avais 15 ans en 68, 14 ans et demi. Donc ça a joué énormément, quoi. Je crois que c'est pour ça que j'ai continué à faire des études. Donc j'étais doué, mais j'aurais peut-être laissé tomber, j'avais tendance à, quand même, à faire l'école buissonnière, on va dire. Donc j'étais pas trop scolaire, en fait, voilà. Et presque, on pourrait dire, je suis devenu... Parce que j'ai trouvé une raison, en fait, de faire des études. Et la raison, c'était effectivement, j'allais dire, pour le dire comme ça, d'une manière un peu... C'était améliorer la vie de mes parents, quoi. Voilà. C'était la révolution pour cette raison-là.
Le rendez-vous des quais de Paul Carpita, 1954.
Si nous savons mener l'action, ce n'est pas le moment de se renfermer dans sa coquille.
Oui.
Personne ne doit flancher.
On s'occupera de soi-même après ?
Mais non, en même temps, il faut que je t'explique.
Oh, toi ! Pourvu que le mouvement en marche. Ça te fout pas mal les difficultés de chacun.
Tu crois ça, mon père? C'est vrai?
Après tout, c'est facile pour toi de dire aux autres d'attendre. Tu as fait ta vie, t'as pas eu les mêmes difficultés que moi pour te marier.
Robert, à chaque voyage, le pasteur emporte une pierre de ta maison. De la mienne aussi. Tu veux un appartement, tu veux être heureux, tu veux du travail, et que maman soit heureuse. Et moi, Robert? C'est pour ça que je te demande de lutter avec nous. Exige de ceux qui entretiennent la misère et la guerre les moyens de ton bonheur. Avec les milliards de la guerre d'Indochine honorée.
Vas-y, on les connaît tes discours. Avec des siens, on fait tout ce qu'on veut. Mais c'est pas si simple que ça, figure-toi.
Tu prends le contre-pied de tes intérêts.
J'ai pas besoin de tes conseils. Et puis vous, bourrez le crâne à Marcel, c'est dégoûtant.
Mon Dieu.
Moi, mes parents, par contre, effectivement, voulaient absolument que je fasse des études.
Votre mère voulait que vous travailliez dans un bureau?
Oui, c'était ça un peu, c'était travailler au chaud, au chaud et au frais l'été, éventuellement, bon, puis je sais pas, ne pas avoir d'accident du travail, hein, c'était aussi ça, cette dynamique-là, mon père a eu 33 accidents du travail, S'il travaillait sur les quais, c'était fou, quoi. C'était l'endroit le plus dangereux avec le bâtiment, bien sûr. Mais c'était les postes de travail les plus dangereux. Donc c'est sûr que c'était pas un sort que ma mère enviait pour moi. Hein, c'était d'ailleurs plutôt ma mère qui insistait beaucoup pour que je fasse ces études. Quoi. Dès que j'avais moins de 15, 16, elle faisait une dépression. Bon, c'était un peu un chantage affectif et psychologique. Bon, c'était assez drôle. Alors, je travaillais un peu pour lui faire plaisir.
Et vous avez travaillé aussi sur les docks avec votre père et aussi en maçonnerie.
Oui. Beaucoup, ouais, beaucoup.
Les vacances ou...
C'était les vacances et c'était aussi l'idée d'éprouver, en fait, ce qu'était un ouvrier, quoi, voilà, ce qu'était la vie d'un ouvrier. Donc, je levais à la même heure, partir travailler, donc sur les quais avec mon père ou avec notre ami avec qui je faisais les chantiers de maçonnerie. Enfin, j'ai toujours fait l'été et tout ça, pas dans les vacances. Mais les vacances, quand on est étudiant, c'était parfois assez long. Hein, donc j'ai parfois travaillé 3 mois d'affilée. Bon, ça fait une vraie expérience sur plusieurs années, voilà. Et c'est vrai qu'on avait, on était là aussi, donc j'étais un peu, j'avais une forme de fierté, à avoir les mains un peu abîmées, à soulever des sacs de ciment et à monter quelques étages avec, voilà, j'étais content, je me disais, tiens, je suis un ouvrier, je suis costaud, voilà. On était dans cette idéologie-là, quoi. C'est pas l'idéologie d'ailleurs, dans ce sentiment-là, en fait, c'était sentimental par rapport à nos parents. C'est presque pour moi comme l'aristocratie, hein, c'est dire, bon. Je viens de là, je suis pas de votre monde, je suis du... voilà.
Tu passes toujours ton temps avec les révolutionnaires du début du siècle ?
Non. Je les aime toujours. J'y pense un peu.
Kilosa, 1985.
C'est vrai qu'à force de travailler sur leurs textes, je m'étais mis à imaginer leurs démarches, leurs gestes, leurs états d'âme. Je faisais presque de la fiction.
Et tu les as quittés ?
Oui. Un jour, j'étais assise à une terrasse de café. Je regardais passer les gens. Le lendemain d'une élection. Au bout de 2 heures, ma passion pour la politique s'était envolée, ma passion pour l'histoire avec.
Nous sommes nés trop tard. Plus tôt, on aurait pu vivre avec des certitudes.
Et donc, vous faites des études de sociologie, c'est ça ? Et d'histoire droit, politique ?
Ouais, droit, sciences éco, sociologie ensuite. Enfin, je mélange un peu, en tout cas, des sciences sociales. Et je fais tout ça un peu en même temps. D'autant que je pars très vite à Paris, en fait, pour... Et je me retrouve à Vincennes, d'ailleurs. Vincennes qui est encore dans le bois. Hein.
Paris 8 et,
ouais, Paris 8. Mon cursus, après, s'est développé à l'école pratique des hautes études, qui s'appelait déjà l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et voilà, où là je faisais une thèse, évidemment, sur l'histoire du mouvement ouvrier entre 1895 et 1914.
Comment on rêve, quand on a grandi à l'Estac, issu de l'immigration, ouvrière, comment on peut se dire je vais faire le travail de Orson Welles, Pasolini Comment c'est possible mentalement,
non.
En fait ?
Non, justement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. On peut pas penser à ça. C'est pour ça que j'ai jamais pensé. Il m'arrive encore aujourd'hui de dire que je suis pas cinéaste après 24 films. Je crois qu'on peut pas penser si on n'est pas né dans ce monde-là. Et j'ai vu beaucoup de gens, j'ai produit beaucoup de gens qui sortaient de ce milieu-là et pour qui c'était tout à fait évident pour eux de dire, tiens, je vais faire un film. Bon, on peut pas dire, je vais faire un film quand on vient d'où je viens, c'est impensable. Donc c'est vraiment un hasard total, un concours de circonstances lié à Ariane, d'ailleurs, qui, elle, voulait toujours faire du théâtre, était au conservatoire, elle jouait avec son père quand elle avait 10 ans, je faisais déjà du théâtre. Bon. Donc elle n'a jamais pensé à autre chose que ça. Elle s'est retrouvée à Paris, au Conservatoire de Paris, elle a réussi le concours. Et là, on lui a proposé, elle a travaillé sur un film, une fois déjà, et René Ferré, qui avait fait le film sur lequel elle avait travaillé, à l'occasion d'une soirée que j'ai passée avec lui, m'a, d'un coup, d'un seul, comme ça, à la fin de la soirée, proposé d'écrire avec lui son prochain film. Voilà. C'était une adaptation de Dublin. J'avais déjà lu ce Alexanderplatz, ce très très beau livre. Il voyait que je venais du milieu ouvrier, il était intéressé par le fait que j'étais militant, que j'étais universitaire, que voilà. Évidemment, on refuse pas ça, j'avais 22 ans. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça qui a précipité les choses. C'est-à-dire que, à ce moment-là, je quittais le Parti communiste, on me propose d'écrire ce scénario, je commence à écrire, et en quelques semaines, en fait, arrive l'idée, en fait, que je pourrais écrire pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de souvenirs, souvent c'est comme ça que la fiction débat, par la réminiscence, je crois toujours. Donc beaucoup de souvenirs, comment ça, viennent, le fait même d'être en train d'écrire à quelqu'un, viennent se bousculer, comment ça, moi, arrive à des choses que j'avais oubliées même. Et je commence à les noter. Et je me dis, je vais écrire pour moi. Je me dis, à travers le cinéma, je vais raconter des choses que les autres ne racontent pas. Voilà.
Qu'est-ce que c'est ces histoires de boules ?
C'est rien.
Quoi, c'est rien ? Je sais bien qu'il y a eu quelque chose.
Ça va, je te dis que c'est rien.
J'en ai marre de vos conneries. Vous êtes des feignants et des voyous. Si j'avais pas eu l'accident à Culmann, ça serait pas passé comme ça. J'ai toujours travaillé, moi.
Dernier été, 1981.
Avant l'accident, je n'ai jamais eu un jour de chômage.
Ouais, regarde le résultat.
Je suis chez moi. Je pourrais te mettre une gifle.
Ah, tu me fais chier, arrête, bois un coup.
À ton père, je fais chier.
Et donc, dernier été, raconte votre jeunesse, les derniers moments d'un monde qui est en train de s'effriter.
Oui.
Vous l'avez co-réalisé, ça ne doit pas être facile, une co-réalisation.
Oui,
avec Franck Levita.
Oui, que je vois toujours, et qui est toujours, ne s'est pas fâché. Mais non, c'est très difficile. Mais ça a été là aussi un hasard total. C'est-à-dire que, bon, moi, quand j'ai rencontré Ferré, lui, il voulait faire un stage. C'était un ami du parti, d'ailleurs, aussi, bien sûr, de Franck Levita. Il voulait faire un stage au cinéma. Je lui ai fait faire un stage, donc je l'ai recommandé auprès de René, qui tournait La Communion solennelle à ce moment-là. Et il a fait ce stage, et donc il m'a dit, mais pourquoi on ferait pas, on écrirait pas un truc tous les deux? Mais c'est dans l'inconscience totale, évidemment, je ne recommande ça à personne aujourd'hui.
Comment vous avez fait le découpage, la préparation?
Mais il faut rien savoir pour faire un film, hein. C'est ça, moi, que j'ai toujours dit, il faut surtout vouloir le faire, voilà. Il faut quand même une urgence existentielle, forte, sinon on n'y arrive pas, on peut pas faire des films. C'est pas innocent, c'est un vrai engagement, faire un film. Enfin, c'est d'ailleurs lié aussi au prix d'un film. Même un film qui coûte très peu, ça coûte énormément. Même un film fauché coûte énormément. Mon premier film a quand même coûté, à cette époque-là, 1,5 million de francs, bien sûr. Donc ça faisait quoi, 250 000 euros, ou 300, peut-être
vous
300
avez
000 euros.
L'avance sur recette du CNC, mais pas beaucoup.
Rien de plus. Rien de plus, et précisément parce que c'est là où effectivement se heurtent parfois des choses. Justement, là, j'ai refusé en fait beaucoup de propositions parce que d'ailleurs on me parlait de faire le film avec Depardieu et Devers. Pourtant, hein, je veux dire, on me disait, mais en fait, c'est une bande de jeunes gens. C'est très beau le scénario. Pourquoi vous prenez pas il y avait eu des valseuses un peu avant. Enfin, c'est commencé à être très très connu, quoi. Il disait, pourquoi vous essayeriez pas avec Depardieu, Devers.
Qui avait des physiques prolétaires.
Ouais. Non, mais c'était pas idiot, quoi. Hein, je veux dire, c'était pas tout à fait dénué de. Bon, là, j'aurais peut-être trouvé des avaloirs, distributeurs, enfin, je sais pas quoi. Une télé, bien sûr. Là, j'ai eu que dalle, évidemment. Canal Plus n'existait même pas. Donc, évidemment, je n'ai pas eu de chaîne de télé, j'ai pas eu.
Vous étiez aussi très à cheval sur les accents.
Justement, ce film-là est très sous influence pasolidienne, hein, je veux dire, du coup, et des premiers films de Pasolini, donc Acatone, Mamma Roma, de ces films-là. Alors, c'est vrai que je voulais, que les choses soient incarnées plutôt qu'interprétées, d'ailleurs. Mais au fond, le niveau de jeu, au sens où on entend pour aller vite, que le niveau de comédie, m'intéressait pas tant que ça, le niveau d'interprétation. Je m'en foutais. Je voulais surtout que les gens, soit les personnages incarnés, quoi. Bon, donc j'ai fait le film avec des amis, un chauffeur routier, un chaudronnier, un ami, après aussi un ami qui faisait des études d'architecture, qui les a terminées ensuite, et qui est toujours avec moi aujourd'hui.
Malek Hamzaoui.
Ouais, mais qui fait tellement mauvais qu'il n'a plus jamais joué, hein, il est devenu directeur de production. Et Gérard Mélin, qui lui, par contre, est bon et a joué sur tous mes films, qui était infirmier.
Et donc, dernier été, votre premier long métrage est sélectionné à Cannes, dans la section perspective du cinéma français, avec un très bon accueil, finalement.
Oui. Mmh. Oui, ça se passe très très bien. C'était... Parce qu'effectivement, il est vu sous les auspices de Pasolini, peut-être, qui, sous la protection. Et c'est vrai que ça se passe bien. La réception à Cannes était très très bien. C'était une très belle presse. On fait quelques ventes à l'étranger. Et pour un premier film, ça sort. Il sort de manière correcte. Enfin, on a des bonnes salles. Je sais pas. J'aurais dû faire 80 000 entrées. Je sais pas. Bon, 80 000 entrées pour un premier film, c'est pas mal. Hein. Aujourd'hui, c'est un rêve.
Rouge Midi, 1985.
« C'est le coiffeur qui avait accueilli Majorine à la gare. Il était à Marseille depuis plusieurs années. Il leur avait écrit qu'il réussissait, qu'il était sur le point d'ouvrir un magasin. C'est pour ça qu'ils sont venus.
Buongiorno, avete fatto buon viaggio. E come va? Bene. Bienvenue. Ça fait louer, hein? E tu chi sei?
Salvatore.
Ah, bene. E tu?
Guido.
Ah. E tu come ti chiami?
Mangiorina.
Come carina. Li davo a fe, eh? Mangiare. Non vai lì. Andiamo.
Et alors donc en 84, vous tournez votre deuxième long-métrage Rouge Midi, vous êtes seul à bord à la réalisation,
oui.
Co-écriture avec Franck Levita encore. Et là c'est un film complètement différent de Dernier été, qui est un film historique, donc sur l'arrivée d'une famille calabraise immigrée
oui.
qui arrive à l'Estac pour travailler dans des usines ou au port. Et c'est le portrait de trois générations, donc c'est un film assez ambitieux, historique. Et c'est un petit peu vos racines, je dirais, politiques
oui.
et sociales.
J'ai souvent dit que c'était un petit peu la préhistoire des personnages de Dernier été. C'est un peu leurs parrains et leurs grands-parrains aux personnages de Dernier été. En fait, si on voulait mettre les deux films à l'une derrière l'autre, il faudrait les inverser, oui, pour respecter la chronologie, voilà. Donc je veux continuer, donc je vais creuser sur les générations précédentes. Pour raconter un peu comment cette culture-là avait existé, s'était constituée à travers des événements historiques. Et puis on parle de l'immigration dans les années 20, on parle de la guerre, bien sûr, en fait, 36, tout ça. Bon. On a travaillé comme des fous, bien sûr.
C'est extrêmement ambitieux.
C'est ambitieux,
pour l'époque.
Oui. Et j'ai pas, vous dire, on n'a pas les moyens de notre ambition, quoi. Donc on bricole. Et c'est vrai que. Je pense que c'est mon film le moins cohérent, je dirais, voilà. Parce qu'il y a des belles choses, bien sûr, des trucs bien, des trucs pas bien, bon. Mais c'est le moins cohérent, c'est-à-dire que je crois qu'après ce film-là, je me suis jamais plus planté, en tout cas, sur la manière de produire un film. Et sur faire un film avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, c'est pas qu'une affaire de financement, hein. C'est dire, je peux faire cette séquence dans ces conditions-là, comment je la fais? Mais c'est dire d'abord, je peux la faire dans ces conditions-là. Donc si je peux la faire dans ces conditions-là, je fais pas comme si c'était dans d'autres conditions.
Comment ça se passe? Vous êtes aussi sélectionné à Cannes,
ouais.
au même endroit, donc à la perspective du cinéma français, vous avez eu un
oui, qui était... Ouais.
Et donc comment ça se passe, Rouge Midi? Ça se passe pas pareil?
Non, pas pareil. Perspective du cinéma français, c'est la quinzaine, hein, ça dépendait de la SRF. La projection se passe et en plus, alors c'est comme s'il y avait une chose symbolique, c'est-à-dire que c'était la première fois où l'officiel se passait dans le Nouveau Palais. Et il y avait eu la mauvaise idée de faire des projections de la quinzaine dans l'Ancien Palais. C'était une très mauvaise idée, parce que le lieu s'y prêtait pas, le lieu était immense, il y avait un décorum de fou. C'était pour l'officiel, donc c'était pour faire remonter Sophia Loren et Mastroianni. C'était pas pour faire remonter Gérard Mélin et
Jacques
Boudet. Bon, donc, et on se fait tuer, quoi. On s'est fait vraiment descendre avec le film, comme jamais, quoi. C'est la pire projection de ma vie.
Vous pouvez décrire un peu ce qui se passe, ce qui se
dit. Les gens parlent pendant le film, rient quand il faut pleurer, donc se moquent du film, quoi. C'est une humiliation dingue quand on est dans la salle à ce moment-là. S'agitent, font du bruit, se lèvent et s'abattent, évidemment. À la fin, il y a la moitié de la salle qui est partie. C'est terrible. Je souhaite à personne cette chose-là. C'est une humiliation folle, quoi. Ouais, on est avec Gérard et Ariane dans la salle, c'est les deux qui sont avec moi. Bien sûr, on est mortifiés, on mange tous les trois, c'est sinistre. Enfin, on est au fond du trou, quoi. C'est un truc de. Et il y a de quoi être fâché. Et c'est vrai que la réception quand même du film et tout, le film se fait est quand même un éloge de la morale en fait ouvrière, on va dire, hein, et de la transmission de la morale ouvrière, de la culture ouvrière. Et c'est vrai qu'on est en 83, c'est-à-dire c'est la fin de, c'est presque la fin de l'Union de la gauche, hein, 83. Donc c'est pas hasard non plus. Tout le monde, il y a quelque chose. Je suis obligé d'analyser comme ça aussi, malgré les défauts du film, hein, dont je viens de parler, bien sûr. Mais il y a quelque chose aussi d'un rejet politique du film. C'est vrai, on se dit, qu'est-ce qui nous emmerde à nous parler encore des glorieux communistes de 36. Bon, voilà. c'est vrai que ça énerve tout le monde, quoi. Voilà.
Le PCF n'avait voilà. pas trop la cote. Hein.
Pas du tout, pas du tout. Donc c'est vrai, on se dit, on a été lapidés, quoi. Voilà, bon. Et alors, le lendemain dans la rue, c'est pareil, quoi, vraiment. Le cinéma, c'est quand même un milieu redoutable, quoi, par rapport au succès ou pas. Hein. Je souhaite à tout le monde d'avoir du succès tout le temps. Hein. Parce que c'est terrible. Et puis, du coup, tous les gens que je croisais, vraiment, changeaient de trottoir, que c'était hallucinant. C'était des gens qui m'avaient reçu avec le premier film, je veux dire des exploitants parfois, hein, des propriétaires de salles, enfin bon, qui m'avaient reçu, j'avais fait des débats avec eux sur le film précédent. Ils ne voulaient pas en parler du film, mais je sais pas, ils changeaient de trottoir. J'ai parfois traversé la rue pour en attraper par le col d'ailleurs, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Enfin, tu peux ne pas aimer le film et me dire bonjour. D'où sors-tu? Voilà, j'ai quelques souvenirs comme ça un peu. Parce que voilà, non, mais j'ai toujours été un peu combatif. Hein, voilà. J'ai réagi assez violemment quoi, par rapport à ça. Hein. Mais je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui.
Comment réagit la presse alors à Rouge Midi?
Ben, pas mal. Justement, heureusement. Alors le film quasiment a du mal fou à sortir. Je trouve une petite distribution. Catastrophe. Une catastrophe. Un entrée, c'est un désastre. Mais la presse, d'ailleurs, c'est peut-être, ça devrait être, je crois qu'il faut que les critiques y pensent, c'est leur responsabilité. Bien parler et parler longuement, c'est-à-dire faire des vrais articles sur des films qui ont peu d'audience, ça aide beaucoup, hein, les cinéastes à exister, quoi. D'abord, ça les conforte dans le sentiment que peut-être un jour il va leur arriver quelque chose, il y a peu de succès, peu d'argent, etc. Donc ça les aide à poursuivre leur boulot. Moi, je sais que ça va aider, hein, la presse.
Et là, vous aviez quel âge ?
30 ans. Je m'acharne à essayer, à monter un projet que je n'arrive pas à monter. Donc je n'y arrive pas. Comme je n'y arrive pas, je me dis, je vais quand même tourner, forcer le destin. Et je fais un film qui s'appelle Kilosa, qui est encore plus dur, plus fauché, que je fais quasiment tout seul. Hein. Justement parce que je faisais la production, donc je commençais à trouver des combines, c'est-à-dire évidemment de l'apport industriel, en tout cas des choses comme ça. Et on fait le film en 18 jours que j'écris. Il n'y avait même pas eu de version manuscrite en fait du scénario, j'étais tout écrit à la main, des photocopies de texte à la main. Et on s'embarque encore parce que avec les mêmes amis. Hein.
Quelques devoirs de tout recréer, avec des réminiscences, pour avérer qu'on est bien là où l'on doit être. Parce que, permettez-moi d'exprimer cette appréhension, demeure une incertitude.
C'est superbe. Le rythme, la syntaxe. Il faut vraiment que tu sois publié. Et avec tous tes boulots, tu arrives à travailler pour toi.
Le savoir. Je n'ai pas de boulot. Je continue à vivre sur le dos de ma mère. Je suis un lâche.
Tes textes ont été refusés ?
Je n'ai jamais présenté un seul, je les trouve trop mauvais. Ou alors il faudrait que je les retravaille, mais j'en ai pas le courage, pas le désir.
Mais tes textes sont intéressants, il faut se battre, faut s'acharner.
Je n'ai plus la force, si je l'ai jamais eue d'ailleurs. Mes textes n'intéressent personne.
Je suis tombé sur une interview d'Ariane Ascaride qui dit « Robert était dans un désespoir profond et ses amis l'ont porté ». C'était une réaction vitale. Non, vous ne nous aurez pas. Vous ne nous foutrez pas par terre. On ne mourra pas.
Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est vrai qu'après la projection et la très mauvaise sortie de Rouge Midi, on est à zéro. C'est là où il faut quand même... C'est vrai qu'il faut une satanée croyance. Quoi. C'est un sentiment étrange. Hein, parce que... Pour pas renoncer. Quoi. Parce qu'il faut à la fois une... Il y a une espèce de prétention, hein, quand même. Hein. Il y a quand même, de toute façon, quand on fait un film, il faut penser qu'on va changer le monde, hein, avec le film. Hein. Je ne vois pas comment on arriverait à manipuler des budgets énormes, à faire des. Donc, même, comme je disais tout à l'heure, quand ils ne sont pas énormes, c'est quand même beaucoup d'argent. Il faut être un peu fou, quoi. Il faut avoir une urgence extrêmement forte, puissante, qui confine à la folie. C'est vrai, à une forme de folie, je dis bon. Sinon, on ne le fait pas. On le fait pas.
Gérard Mélan, dans une interview, dit Kilosa, son film le plus sombre, Autopsie. On l'a fait en quelques jours. On a amené nous-mêmes à manger et à boire pour les techniciens. Donc ce film, c'est une nécessité d'exister en tant que cinéaste contre le système.
Oui. Je sais pas, mais je crois que c'est toujours vrai, ça. Je crois qu'il ne faut pas attendre, en fait, voilà. Il faut pas attendre 7-8 ans entre deux films, c'est pas possible. Donc il faut y aller, c'est-à-dire que il faut écrire vite quelque chose et tourner, et puis on verra, si c'est mauvais, c'est mauvais. L'histoire, comme disait Castro, l'histoire le dira, hein, je veux dire, voilà, bon, on fait bon. C'est, voilà, Kilosa qui était un film, hein, ceci dit, après c'est une catastrophe, parce que quand je fais ce film, on le fait très volontiers, on s'est vraiment beaucoup amusé, ceci dit, à faire le film. Et là, il sort carrément pas le film. Je trouve pas le distributeur. Pas le festival, pas le distributeur, mais rien. C'est encore pire. Que... Donc le désastre, ça descend encore plus bas. Je descends encore une marche vers le faux. Et c'est... Mais voilà, mais il y a quelques soutiens.
Donc, à ce moment-là, dans votre tête, vous dites, on va faire comme Cassavetes, on va être en contrebande.
Oui, là, c'est complètement marginal. C'est vrai que c'était... Alors, c'est pas un choix, hein, c'est contraint et forcé, j'ai pas d'autre solution. Ou je fais pas, ou je fais dans la marge, voilà. Donc, je choisis de faire dans la marge. Bon, c'est risqué, hein, c'est un risque et péril, c'est bon. À tout point de vue. Financier, matériel, bon, c'est dur quand même à ce moment-là, hein. Je veux dire, moi, j'ai déjà une petite fille. Hein. Il faut commencer quand même à gagner sa vie un peu, hein. Je veux dire, bon, c'est pas, pas toujours être bricolé. Et, bon.
Dieu vomit les tièdes, 1991.
Nous, fils d'ouvrier.
Je suis pas fils d'ouvrier. Mon père est pêcheur, en plus je suis une fille.
Elle a raison.
Mais t'es un fils de pauvre, mais pas fille.
Pourquoi pas fille?
Ça allonge trop.
Bon, je vous lis ce que ça donne. Nous, fils de pauvre, jurons de nous battre jusqu'à la mort. Et quoi qu'il arrive, pour que vienne un jour où tout le monde sera riche, sans être capitaliste, si l'un de nous trahissait ce serment, les autres ne lui parleraient plus jamais. Ça vous va?
À peu près.
La bourgeoisie reste la bourgeoisie. S'il y a quelque chose de... Là, on le voit, là, ce qui se passe en ce moment. La bourgeoisie ne peut pas concevoir qu'il y ait un autre pouvoir que le sien. Elle considère que tout le reste du monde est exotique, justement, et pittoresque ou exotique, ou voilà. La bourgeoisie pense fortement qu'elle a la légitimité du pouvoir, la légitimité de l'intelligence, la légitimité de l'humour, la légitimité de tout, quoi, voilà. Or, la bourgeoisie, il n'y a pas de point de salut, point de culture, point de langage, point de... C'est vrai que ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Montrer l'humanité, la charge d'humanité, en fait, du pauvre peuple, est une chose irregardable par un bourgeois.
Voilà. Français.
Parce qu'il passe... Non, du monde entier. Non, pas français, du monde entier. Parce que il considère que ce sont les seuls à détenir cela. La légitimité, en fait, dont on parlait tout à l'heure, et même la légitimité intellectuelle et culturelle. C'est pareil que le rapport à la colonie. Au fond, il y a une négation de l'humanité du colonisé, évidemment, dans le mouvement colonial. Et là, il y a une négation de l'humanité du prolétaire, en fait. De l'humanité. C'est pas un homme comme les autres. Comme nous. Comme nous qui avons le pouvoir. Dans un film, dans un roman, etc. Il n'est pas, évidemment, jamais aucun bourgeois ne l'exprimera comme je l'exprime là. Surtout pas. Surtout pas. Au contraire, il le dira avec une dénégation. Il dira, mais non, mais pas du tout, j'ai jamais pensé ça. Mais oui, il pense ça. Enfin, il le pense pas. C'est son inconscient profond. C'est son inconscient de classe, on pourrait dire. L'inconscient de classe qui parfois parle d'un coup, qui se laisse entendre.
Nous rejoignons ce soir le ciné-club Rebetiko, dans le quartier de Belzunce, situé entre le Vieux-Port et la gare Saint-Charles, berceau des vagues migratoires historiques. Le nom du ciné-club Rebetiko, fondé dans le quartier Samatan de la French Connection, est un clin d'œil à cette musique gréco-ottomane interdite par les nationalistes grecs qui se jouait en cachette dès les années 30 dans les tripots du Pirée à Athènes. Ce ciné-club perpétue cet état d'esprit en diffusant gratuitement depuis 4 ans classiques et films marseillais indépendants en présence de leurs réalisateurs. Aujourd'hui, c'est le film Salem du cinéaste marseillais Jean-Bernard Marlin.
Mmh.
tous, merci d'être nombreux. Nous sommes très honorés ce soir d'accueillir un grand cinéaste marseillais, Jean-Bernard Marlin.
Florence Smadja.
Pourquoi vous avez entendu de cette musique là? Alors, pour ceux qui sont jamais venus au Ciné-Club Rebetiko, je vais faire un petit, petit historique du Ciné-Club qui est né il y a maintenant un peu plus de 4 ans pendant le couvre-feu, juste après le confinement, quand notre cher président nous avait interdit de nous rassembler. Alors c'est né dans le quartier de Saint-Mathan, dans un tout petit local, et donc c'était un ciné-club clandestin où l'idée c'était de projeter des films à fort caractère politique et social.
Donc je suis Léo Chili, j'ai grandi ici à Marseille dans le centre-ville. Et je travaille donc à Urban Prod depuis 4 ans, principalement en détention. Donc ici, on a deux projets en détention. Un chez les mineurs où c'est que de l'atelier. Donc soit on débarque une fois par semaine selon les endroits, Beaumet, Luynes, le PM ou le CF de Marseille. Et là, on fait un atelier par semaine avec le même groupe. Et sinon, il y a des endroits où on part une semaine et où on fait un atelier par jour. Et ça concerne les endroits un peu plus loin, comme Grasse ou Brignoles. Et moi, ça faisait un moment que je voulais monter un ciné-club à Urban, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et il y a eu un moment donné où, en fait, on s'est dit... à Marseille, on se rend compte qu'il y a plein de mecs qui font des trucs chacun dans son coin, mais qu'on se connaît pas. On se connaît pas, on se côtoie pas, on se parle pas. Mais là, on avait quelques contacts de mecs, donc on a commencé à appeler un peu. Et de là, en fait, on s'est rendu compte que le ciné-club qui était... où il y avait entre 10 et 20 personnes pour un film, d'un coup, quand on ramenait un réalisateur marseillais, Guérilla, qui faisait son truc sans argent et tout, là, d'un coup, la salle, elle était entre 50, 60 personnes, ce qui est la capacité de la salle. Et on s'est rendu compte qu'il y a des mecs qui faisaient les mêmes choses, mais qui ne se connaissaient pas, ils se mettaient à parler devant. Le public revenait pour voir un peu... la curiosité, ça pouvait aller de... Moi, il y a la cousine de ma mère qui a 70 et plus qui venait. Il y a des petits jeunes qui viennent. Enfin, ça faisait une salle un peu hétéroclite marseillaise, on va dire, tu vois.
Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir le réalisateur du film que nous allons voir ce soir, Salem, qui est le deuxième long-métrage de Jean-Bernard Marlin. Alors nous sommes très honorés puisque Scheherazade a eu de multiples prix, notamment 3 Césars du meilleur espoir masculin, meilleur espoir féminin et meilleur long métrage. Premier long métrage. voilà, donc c'est vraiment un honneur pour nous, ce petit ciné-club, d'accueillir quelqu'un qui est multi-primé et notamment en sélection à Cannes. Scheherazade a été très reconnue, très remarquée la semaine de la critique, et Salem a été présenté en sélection officielle. Donc il est sorti il y a un an, c'est ça maintenant ?
Fini, tu rentres à la maison, mon frère.
Y'a ton père!
Dis-toi! Wesh! Tiens!
C'est pour ta famille.
C'est quoi?
C'est des gâteaux de ma daronne.
Pourquoi faire?
Je veux dire que je sors avec ta soeur.
Quoi?
Je sors avec ta soeur.
Tu fous ou quoi?
Quoi? Ta soeur, je vais la marier. Hein?
Oh, tu me prends pour une con?
Je rigole là.
Oh, tu sais quoi ce camion?
Mais ça se voit pas.
Lui, c'est ton gars, Joe, lui.
Mon copain est maintenant marié.
Oh, c'est à cause de lui que Mahdi est mort et tu veux te marier avec lui?
Il a rien fait, hein.
Comment il a rien fait, Camilla? Tu t'en bats les couilles de Mahdi qu'il est mort?
Il a rien fait! Il a rien fait, frère, je comprends pas ou quoi?
Le sang, je suis venu ici pour qu'on devienne collègue, y'a rien d'autre.
Y'a pas de ça, mon pote, tu es pas mon collègue, tu maries pas ma soeur.
Camilla, je l'aime.
Je reste à ta place, je reste à ma place. On n'est pas des collègues tous les deux. Et toi que tu sois content ou pas, je m'en bats les couilles, on rentre à la maison, je t'ai dit.
Non.
Rentre à la maison.
Rien à dire.
Rentre à la maison tout de suite.
T'as rien à dire, je fais ce que je veux.
Oh, t'as 4...
T'as rien à dire, je fais ce que je veux.
Oh, t'as 14 ans dans la pachon.
T'as rien à dire, je fais ce que je veux. T'as rien à dire.
Oh, tu sais quoi, tu me fais chauffer devant tout le monde.
Ouais.
T'es avec nous ou t'es avec eux en vrai?
J'ai rien que son manque. Mais je sais pas, faut le trouver, ça.
Ça serait une fille.
Pour le voir grandir, cet enfant, il faut que tu te rendes.
J'aimerais qu'elle s'appelle Ali.
Que j'aimerais te poser, c'est au sujet du casting, qui est très impressionnant. Comme pour Scheherazade, tu as fait, je crois, un casting sauvage. Enfin, alors, j'ai deux questions. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de crédibilité pour les personnages à choisir des non-professionnels ? Comment ont-ils été formés ? Si tu peux nous parler du travail avec ces non-professionnels.
Bon, déjà, merci à Urban Prod de pouvoir présenter ce film. Comme pour Scheherazade, c'est vrai, on a fait un casting long, je sais pas, entre 8 et 10 mois, pour trouver tout le casting, parce qu'il fallait trouver des acteurs jeunes et vieux. Et ça a compliqué vraiment la tâche. En ce qui concerne la formation, ben, j'ai fait des ateliers avec eux, voilà, pour les entraîner à jouer devant une caméra. Les acteurs, ils jouent pas du tout leur propre rôle. Donc en fait, c'est un travail de composition. Parfois, c'était vraiment un peu compliqué parce qu'ils devaient, jouer un personnage qui n'était pas du tout eux.
Je voulais savoir au niveau du rendu final, est-ce que c'est plus ou moins une copie conforme de ce que vous aviez en tête dans le scénario et le storyboard ? Ou est-ce que le fait de bosser avec des amateurs de Marseille, d'être dans des endroits originaux et tout, a fait que pendant le tournage, en fait, les choses ont changé ?
Non, c'est une bonne question. Hein. Non, ça a complètement changé. C'était pas du tout... pas du tout écrit comme ça. Effectivement, travailler avec des non-professionnels, bah, ça demande... on doit faire des sacrifices parfois à plein d'endroits.
Pour les dialogues, c'est eux les mieux placés pour avoir un parler le plus naturel possible.
Non, après, les dialogues, ils les apprennent. Hein. Ils ont appris les...
Mot à mot, c'était ce qui était écrit à l'avance.
Quasiment, quoi. Franchement, de temps en temps, ils rajoutaient quelque chose, mais quasiment... En fait, l'idée, c'était vraiment qu'ils respectent le texte, le scénario, quoi. Voilà, c'était... Non, c'est pas de l'impro, du tout. Du tout, du tout, du tout. Surtout ce film, pas du tout.
Pourquoi la communauté musulmane et les populations des quartiers pour faire cet hommage, ou en tout cas, parler de ce récit ?
Alors, en fait, les religions, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié... J'ai beaucoup étudié l'islam et les chrétiens. Honnêtement, ça me passionne. Hein. Mais j'ai étudié d'un point de vue historique. Évidemment, hein, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, mais j'ai aussi étudié tout ça aussi d'un point de vue historique. J'ai vu plein de parallèles, en fait. C'est pas des religions qui sont si éloignées les unes des autres. Hein. Ils ont les mêmes prophètes, par exemple. J'avais envie de parler d'un personnage qui fasse un syncrétisme des religions, c'est-à-dire qu'il est, il est fou, hein, donc il les mélange. Voilà pourquoi j'ai travaillé comme ça. Et pourquoi aussi j'ai parlé aussi de la communauté comorienne et de la communauté gitane, aussi dans les quartiers nord. Parce que c'est impossible de ne pas en parler. C'est des communautés quand même très très présentes à Marseille, et qui sont là depuis aussi très longtemps, et je trouvais ça fondamental, voilà, qu'elle soit là aussi, voilà, dans le film. Dans le 13e, puis dans le 12e.
Jean-Bernard Marlin.
Alors mon expérience, c'est que j'avais à la fois des copains, on va dire, qui venaient de quartiers, de cités, et d'autres bourgeois. Voilà. J'ai le sentiment d'avoir grandi un peu entre les deux mondes. Nous, on était, oui, dans le 13e, mais on est... Je me souviens, on avait triché à l'école pour aller dans un meilleur lycée, un meilleur collège, dans le 12e.
T'étais bon à l'école ?
Et moi, j'étais bon... j'étais bon à l'école, on va dire, jusqu'en 4e. Après, il y a eu des hauts et des bas. Ouais, j'étais plutôt doué à l'école, mais j'ai eu des années où j'ai pas travaillé, où j'ai arrêté l'école, où j'allais plus à l'école.
T'as fait quelques bêtises.
J'ai fait quelques bêtises. Quoi, voilà, mais rien de grave. Il y avait la mixité sociale. Tout le monde venait plus ou moins avait des origines très très différentes. Il y avait des gens riches aussi. Il y avait des gens riches. Et devant les gens, on va dire, tout le monde avait envie d'être riche, en fait. Tout le monde avait envie d'être au-dessus de sa condition, en fait. Donc, en fait, on trichait, on mentait. Hein, voilà, c'est-à-dire, on se faisait passer pour quelqu'un qu'on n'était pas. Voilà, grâce aux habits, notamment. Il y a des quartiers riches, comme il y a des quartiers pauvres, comme dans les quartiers nord. Hein, il y a des villas, il y a des endroits super riches, quoi. Il y a des riches qui vivent dans les quartiers nord, hein, faut le savoir. Il y en a même beaucoup, même.
Scheherazade, 2018.
Libérate, libérate, liberta !
À bientôt.
Comment ça, à bientôt ?
On va au foyer, allez, viens.
Alors, le mec a fait 4 ans ?
Tiens, quoi ?
Alors, ah, on
Ah, c'est pour toi, ça, frère.
Arrête, c'est une grosse cougar, elle.
Cadeau. Elle.
Attends, mais je crois que je la connais, elle.
Tu t'appelles Scheherazade ou pas?
Ouais, je m'appelle Scheherazade.
Je te rappelle pas.
Pourquoi les éducateurs, ils ont agréé que t'étais carrément partie pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés.
Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
Oulala, là là, tu sais de me la faire à l'envers.
Adolescent, avec mes amis, la vérité, on partait pas en vacances. Hein. On partait pas en vacances, donc on regardait beaucoup de films. Passer nos journées à regarder des films. Et du coup, on allait essayer de choper des films partout où on pouvait. Soit on nous les prêtait, c'était des VHS. Soit on allait les louer. Et du coup, à un moment, t'as vu tout ce qu'il y avait et tu continuais à creuser, à voir justement des plus petits films. Peut-être des films d'auteur, des films plus rares. Parce que justement, t'as déjà tout vu ce qu'il y avait dans la vidéo.
Et c'était voilà, quoi que tu regardais
et si t'avais pas de film, tu te faisais chier. Je veux dire, vraiment,
c'était quoi les films que t'aimais?
Bah, évidemment, on va dire, les films de Coppola, ça vraiment... j'ai vraiment grandi avec. Hein, voilà, les Parrains, les Outsiders. C'est des films qui passaient aussi souvent à la télévision, les films de Brian De Palma aussi, voilà, Scarface, c'est vrai, on a grandi avec. Hein.
La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes.
Bah,
c'est autre chose à faire.
Cognon,
tu bosses 8-10 heures te crevant le cul, tu gagnes rien, il est à toi. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour, et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Voilà, Rocky... C'est vrai, on regardait beaucoup de films de gangsters, donc Les Princes de la Ville. Mais ça pouvait être aussi les Terminator. C'est des films grand public.
Et Scorsese?
Scorsese, oui, c'est arrivé, on va dire, un peu après. Évidemment, Les Affranchis, Taxi Driver, c'est les premiers films qu'on voit, Raging Bull.
Tu te dis pas, je veux faire ça comme métier à ce moment-là?
Non, je me disais, putain, ce serait cool de travailler là-dedans, mais c'était trop loin, j'étais même pas au stade où je réfléchissais à quel métier je voulais faire, j'étais juste à l'école. Ouais. Puis je savais même pas comment, je savais même pas s'il y avait des formations, comment on y arrivait, quoi, voilà, c'était... Et c'est dans un atelier cinéma, dans une MJC, où j'ai découvert qu'il y avait à 16 ans, où j'ai découvert qu'il y avait des écoles de cinéma publiques, mais qu'il fallait passer des concours à Bac+2. Et donc à l'époque, c'était Louis Lumière et La Fémis.
À Marseille, il n'y avait rien?
À Marseille, il n'y avait absolument rien. C'était le vide total, intersidéral. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Moi, je parle d'un Marseille, c'était il y a 30 ans. Vraiment, la culture, d'ailleurs, on l'avait qu'à l'école, en fait. Voilà, moi, je ne l'avais pas à la maison, hein, la culture. La culture, je l'avais à l'école.
Et donc, avec cet atelier, tout d'un coup, je découvre le cinéma d'auteur. Je découvre Ken Loach. Et je me rappelle, le premier film, on va dire, de cinéma d'auteur que je vois, c'est Lady Bird de Ken Loach, sur une maman seule avec ses enfants et qui se fait frapper par ses compagnons et qui cherche à récupérer voilà, tous ses enfants. Évidemment, moi, ma mère n'a pas du tout vécu ça, mais ça résonnait quand même à des choses. Ma mère seule avec ses enfants, machin, ça résonnait à des choses personnelles.
Two fucking hours. 2 hours I've sat here waiting for you.
It's, I'm sorry, I was like at the shops. I won't.
I don't know how I'm fucking standing.
I've got that, kids.
Cunt! Cunt! Fucking driving me mad! 2 fucking hours! I've been 2 fucking hours!
Et je savais pas trop si j'aimais ce film, je le trouvais très noir en fait, je trouvais ça vraiment dark et en même temps je trouvais ça puissant et voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma d'auteur et puis j'ai commencé à m'intéresser donc après au film de Kusturica.
Voilà. Et donc c'était MJC, c'était où?
C'était en bordure de Marseille, c'était parce qu'à Marseille il y avait vraiment rien.
Là c'est le déclic.
Et là c'est le déclic et je me dis ah ouais putain il y a des écoles de cinéma super et tout mais du coup il faut travailler à l'école et moi j'avais lâché un peu l'école à cette époque là et ça m'a remis droit dans mes chaussures et tout d'un coup je me suis dit bah ouais je vais travailler à l'école, ça y est j'ai compris, c'est ça que je veux faire, je vais travailler à l'école pour réussir les concours et oui et du coup je suis passé même je crois des derniers de la classe à premier l'année d'après, quoi, dans les premiers en tout cas. Et j'étais focus sur le concours en fait, sur.
FEMIS c'est Lumière.
Louis Lumière, j'ai fait Louis Lumière. Et donc je l'ai réussi. Et ensuite, voilà, déménagement. Compliqué aussi. C'est vrai qu'arriver à Paris, c'est un choc culturel. C'est parce que tout d'un coup, le temps est gris. Les gens, je les trouvais pas très sympathiques. La première année, ça m'a fait cet effet-là. Je trouvais que c'était un environnement dur, froid. Et au bout de 3 mois, je me suis dit bon, bah, je vais rentrer à Marseille parce que
c'est dur.
Ah ouais, je me suis dit mais c'est trop dur. En fait, je trouvais pas. Le problème que j'avais, c'est que je trouvais pas de logement aussi. Avec un ami, on était dans une sorte de foyer dans le centre-ville de Paris pendant quelques mois. Et ensuite, donc voilà, Louis Lumière, comment ça s'est passé? C'est génial parce que là, j'ai commencé à pratiquer, donc à me servir des caméras. Donc, et on avait la possibilité donc, du coup, de faire des films, d'utiliser les studios et de commencer à travailler voilà, nos propres projets. Voilà, je faisais du cinéma expérimental, j'expérimentais des choses avec la lumière, avec les caméras, avec les pellicules, et c'était vraiment très formateur. Donc du coup, c'est vrai, on était 2 boursiers hein, pour toute la classe, hein, donc c'est pas beaucoup. Hein. Faut dire qu'il y a... En termes mixité sociale, c'était pas énorme. Maintenant, je pense que quand ils recrutent les élèves, ils font un peu plus attention à ça.
Et donc après, quand tu sors de cette école, qu'est-ce que...
Alors, je sors de cette école et je me disais, bah, c'est bon, je vais travailler, quoi. Aucun problème. Voilà, j'ai bac plus 5. Je sors d'une grande école de cinéma. Ça va bien se passer. Voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est très compliqué de trouver du travail. Je décroche 2 jours sur un tournage en tant que stagiaire ou assistant opérateur. 2 jours, voilà, ça se passe pas hyper bien. Voilà, parce que c'est très hiérarchique sur un plateau et voilà. Puis je me rends compte que ça me plaît pas, quoi. Et je commence, et donc le premier boulot que je trouve, c'est porter des caisses pour de l'événementiel et conduire des camions pour l'événementiel. Voilà. Et à côté, je commençais déjà à faire mes courts-métrages, à travailler, à écrire, pour faire des cours. Hein.
Et après, tu es reparti dans l'écriture.
Et après, je suis reparti dans un autre... J'ai fait la fugue, et je suis parti après dans l'écriture de Sherazade avec Grégoire de Bailly.
Il y a 5 ans de l'amour et 5 ans de la pluie.
Tu es avec moi, s'il te plaît.
Tu es devenu folle, bro.
J'ai jamais fait ça, moi.
250 ou rien.
Y'a pas de monnaie, les gars. Vas-y, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons.
J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es sorti que dalle, encore plus con qu'avant.
T'as vu ce terrain ? Maintenant, c'est à nous.
Quoi, tu es amoureux, dis la vérité.
Tu te délires ou quoi ?
Eh ben ça va, ça veut dire que ça te fait rien si je veux. Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que tu es devenu fou, quoi, ça ?
C'est qui qui tente ça ?
Tu as témoigné contre tes amis ? Tu vas pas faire ça quand même, ça connaît pas de balance, nous. Jamais, je t'ai dit, jamais t'agis comme un homme, toi, en vrai. Juste ça, mets-toi à sa place. Sois là pour elle.
Salem, je l'ai fait, je l'ai construit vraiment en réaction contre Sherazade. C'est-à-dire, Sherazade, c'était un film très ancré dans le réel, très documentaire. Tandis que Salem, c'est tout l'inverse, en fait. C'est un film très fiction. C'est un film qui flirte avec beaucoup de genres, où toute la question documentaire, elle est évacuée. D'accord ? Même en termes formels, on n'est pas sur une réalité prise sur le vif, pas du tout. On est au contraire sur une réalité transfigurée, transformée. Donc on va vers l'artifice, on va vers l'onirisme, on va vers le fantastique. Sherazade, on était plus terre à terre.
Sherazade, on était porté par l'espoir de ce couple qui veut s'en sortir. Il y avait l'amour qui transgresse un petit peu toutes les difficultés. Là, dans Salem, il y a une violence, une noirceur et une tragédie extrême.
Eh ben, Salem, en fait, je l'ai fait en pensant beaucoup à mon père, qui est mort il y a entre 25-30 ans. Et Salem, l'impulsion de faire Salem, c'était pour parler de mon père, justement, qui avait une relation à l'au-delà et à l'invisible très très développée. Mon père est français, ma mère est arménienne. Donc mon père, m'a allumé un petit peu la flamme autour de ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionné. Et Salem, c'est plus un film, on va dire, spirituel que religieux. Cette transmission qu'il tente de faire à sa fille, sa croyance en un don de guérison, c'était celle aussi de mon père à certains moments. D'ailleurs, mon père vivait en caravane. Voilà. Et c'est pour ça que le motif de la caravane aussi est très présent dans Salem. Et j'avais envie de mettre tout ça dans mon film, justement. C'était aussi un personnage qui vivait seul et qui a dû faire face aussi au rejet de ses enfants aussi. Et ensuite, voilà, j'ai ancré le film dans Marseille. Et évidemment, c'est compliqué de parler de soi frontalement. Et c'est beaucoup plus simple de le déguiser à travers une histoire, à travers des personnages. Et c'est ce que j'avais envie de faire.
Se cacher derrière la fiction.
Voilà, de se cacher derrière la fiction. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour Sherazade. Par exemple, pour Sherazade, j'ai jamais été, évidemment, proxénète. Mais pour autant, chaque scène du film, je les ai vécues. J'ai l'impression de les avoir vécues d'une manière ou d'une autre. De manière transformée, voilà, de manière déguisée.
Tu veux quoi ? Tu veux mourir ou quoi ?
Notre famille, elle est pas comme les autres. Dieu t'a choisi pour nous guider.
Pourquoi je te croirais ? J'ai tout l'air, mon frère.
Je suis pas ton frérot, je suis ton père.
Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de sauver des gens. S'il existe vraiment ton Dieu, pourquoi il t'arrive tous ces trucs de fou dans ta vie ?
Tu me fais le sauveur ici, là ! Tu as pété les plans ou quoi ?
C'est peut-être dans ta tête, tout ça.
Tout le film parle d'une guerre. Hein. Guerre entre quartiers. Mais l'idée directrice du film, c'était de prendre un personnage, donc Djibril, un personnage en quête de... C'est lui qui va amener la paix dans le quartier. En tout cas, c'était sa volonté à lui.
Mais dans une et démarche sacrificielle.
Dans une démarche, oui, sacrificielle. Et
Et pour moi, en fait, le film, il est pas si, il termine pas sur une note si négative que ça, parce que sa fille, on va dire, reprend le flambeau et amène le pardon. Donc, il y a, pour moi, le film termine sur une note d'espoir.
C'est brut quand même, parce que tu dis que on s'éloigne du réel, mais on est dans l'hyperréalisme, dans le jeu quand même. Il y a une vraie crudité et la violence des quartiers nord, on se le prend en pleine tête.
C'est vrai que dans Salem, il y a beaucoup de règlements de compte. On pourrait me le reprocher, on pourrait dire dans un film standard, ouais, il y a beaucoup de morts, ce que je peux comprendre. Mais en fait, la réalité, elle est comme ça. Hein. C'est-à-dire que, franchement, chaque année, il y a plus d'une vingtaine de morts de jeunes dans les quartiers. Et mon film, s'il y a trois règlements de compte, au final, c'est très peu par rapport à la réalité. Voilà, moi, j'avais envie de montrer la réalité telle qu'elle est. Oui, ça tire de partout, quoi. C'est ça, moi, qui me met en colère. C'est que ces jeunes-là, ils font du sale parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que... ils ont le mauvais code postal sur le papier d'identité parce qu'ils sont confrontés très jeunes à la violence. Alors c'est une violence, ça peut être la violence et règlement de compte, mais c'est aussi une violence sociale aussi. Il y a des vrais ghettos à Marseille. Hein, c'est ça aussi que Salem montre et raconte. Hein, il y a des ghettos. Et donc pour ces gamins comme ça de c'est plus difficile de s'en sortir, c'est plus difficile de changer aussi de milieu social.
Ils croient qu'ils sont forts, petit mesquine. Je suis là depuis Luciano, get out shit. Parle en français, tu n'as pas percé. Je te jure sur mon fils, ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Des gaines de délinquants, j'ai tout niqué avec la psychiatre, tu le sais. Mes amis d'enfance.
Merci à Robert Guédiguian, Jean-Bernard Marlin, Léo Chili, Florence Smadja. Chargé de programme, Marivonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau, Emmanuel Laurentin. Renouveau du cinéma marseillais. Massilia Guérilla, épisode 1, Filmer le peuple, filmer les siens. Une série de Pascal Tessot et Gaël Gillon. Prise de son, Julien Girard. Mixage, Manon Houssin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
J'ai pas du bizarre, je vais te baiser ta race, ramenez-moi les calibres. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumboni. Protéger ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais, mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à c'est fini les. Ce soit des appels, des pommettes, des quartiers chauds, Marseille me dit fini les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie fini les. Et mes enfants innocents me disent papa finis-les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans rap, Sarfora. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, j'emmène à boire. Je vous pisse à l'arrêt. Dis-moi qui sont ces pélos. Dis-leur que je suis Alonso. Je vous fais hagard. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos.